have begun the political revolution, and now we're gonna complete it.
Alors, vous avez entendu la voix du sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui, d'une certaine façon, Raphaël, lançait officiellement sa campagne présidentielle, enfin, à l'investiture démocrate, à Brooklyn, là où il est né, où il a grandi, et ensuite à Chicago.
En effet, deux rallyes en deux jours qui sont allés chercher dans les deux cas des milliers de fidèles qui se sont déplacés. Et ce qui est intéressant, Paul, c'est à quel point sa base est restée avec lui. Son noyau dur qui était là en 2015-2016 sort pour l'appuyer et sort également pour financer sa campagne. Dans les 24 premières heures qui ont suivi son annonce, qui date d'il y a quelques jours, son annonce formelle, je ne parle pas du lancement de campagne officielle, mais son annonce qui était via vidéo dans les 24 premières heures qui ont suivi ça, c'est 6 millions de dollars qu'il était capable de lever provenant des 50 États et des petits dons. C'est ça qui est intéressant. Donc, sa base est encore là, 4 ans plus tard. Une autre chose qui est restée, Paul, après 2016, l'amertume avec une certaine Hillary Clinton, parce que Bernie Sanders a eu un week-end très occupé. En plus de ces deux rallyes-là, il s'est également rendu en Alabama pour commémorer la marche pour les droits civiques qui avait eu lieu à Selma. Madame Clinton était là également. C'est à peine s'ils se sont salués. Et lorsqu'on lui a demandé à Bernie Sanders quelques jours auparavant s'il allait demander les conseils d'Hillary Clinton pour sa campagne, je te donne sa réponse, oui. Je la cite, je ne pense pas.
Ah ben, non, ça a été une dure course en investiture. Quant à Donald Trump, lui, pendant que Bernie Sanders parlait à Brooklyn, tout un discours, Donald Trump aussi a fait tout un discours de plus de 2 heures.
2 heures, 2 minutes. Le type a 72 ans, sans télésouffleur, sans notes, et c'était flamboyant du début à la fin. Écoute, il fallait le voir pour le croire, Paul. Et ce qui était remarquable, c'était de voir, non seulement dans le discours du président, mais dans le discours d'à peu près tous les orateurs qui l'ont précédé lors de cette fameuse conférence à laquelle Donald Trump était, la conférence d'action politique conservatrice, la grand-messe des conservateurs américains, c'était à quel point on a tapé sur le clou du socialisme. On veut diviser les démocrates qui sont carrément, qui sont divisés sur cette question-là depuis l'arrivée de politiciens comme Bernie Sanders qui s'affiche ouvertement comme étant socialiste, l'aile plus à gauche du parti qui étreint carrément cette idée-là de socialisme. T'as l'aile plus modérée qui est, elle, beaucoup plus réfractaire. Donc, ça divise les démocrates, ça unit et ça galvanise les républicains. Donc, on a vu ça pendant le week-end et on risque de voir ça beaucoup d'ici en novembre 2020.
Et Donald Trump a de la difficulté même avec les sénateurs républicains de son propre parti parce qu'il sera peut-être obligé d'utiliser pour la première fois son droit de veto.
Tout un œil au beurre noir pour le président qui s'en vient probablement dans les prochains jours. Pourquoi? Parce que même avec un Sénat qui est contrôlé par son propre parti, le Sénat risque d'approuver une mesure qui rejette officiellement l'état d'urgence invoqué par le président dans le fameux dossier du mur à la frontière mexicaine. Donc, tu as 47 sièges qui sont occupés par des démocrates au Sénat sur 100. Mais le problème pour Donald Trump, c'est que là, tu as un quatrième sénateur républicain, Rand Paul, pour ne pas le nommer, qui a annoncé qu'il allait se ranger avec la totalité des 47 démocrates. Donc, ça donne au moins 51 voix en faveur de cette mesure-là, donc qui va normalement passer le Sénat. On a 51 sur 100, c'est une majorité. Ça avait déjà passé la Chambre des représentants, qui est évidemment à majorité démocrate. Ça, c'était pas surprenant, mais que ça passe le Sénat, c'est assez remarquable. Donc, ça va normalement se diriger vers le bureau du président, qui va être forcé d'émettre son premier veto du début de sa présidence. Ouais. Son prédécesseur, Paul, Barack Obama, avait été le président qui avait émis le moins de veto depuis le 19e siècle, quand on recense toutes les présidences qui avaient fait au moins un mandat. Ouais. Donald Trump, à ce stade-ci, est en voie de battre ce record-là, mais il va quand même devoir, normalement, émettre ce premier veto.
Mais c'est pas normal parce que son parti, Parti républicain, est majoritaire au Sénat.
C'est assez atypique.
Normalement, ça aurait dû passer automatiquement.
Normalement.
Normalement. Il n'y a rien de normal à Washington.
Exactement.
Merci beaucoup, Raphaël Jacob.
À demain.
À demain. On vous revient après les informations de 16 heures.